bonsoir et bon début de semaine à tous. Situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Plusieurs mesures ont été prises par les chefs d'État et des gouvernements au sommet conjoint et à ces SADC tenus samedi 8 février à Dar es Salaam en Tanzanie pour mettre fin à la guerre qui secoue la partie est de la RDC. En toute urgence, les chefs d'État de la SADC et de l'EAC ont lancé un appel à la cessation des hostilités et au cessez-le-feu immédiat. Ils ont demandé aussi le rétablissement des services publics essentiels et des voies d'approvisionnement en denrées alimentaires afin que soit assurée l'aide humanitaire. Également, la réouverture de l'aéroport de Goma. Par ailleurs, le sommet a demandé aux chefs des forces de défense de l'EAC et de la SADC de se réunir dans les 5 jours et de fournir des directives techniques, notamment sur les cessez-le-feu immédiats et inconditionnels. La cessation des hostilités, la réouverture immédiate de l'aéroport de Goma, la fourniture d'une assistance humanitaire, y compris le rapatriement des personnes décédées et l'évacuation des blessés, l'ouverture des principales voies d'approvisionnement. Quelle lecture faites-vous de ces recommandations relatives au cessez-le-feu, à la réouverture de l'aéroport de Goma et des routes d'approvisionnement? C'est le thème de Dialogue entre Congolais de ce lundi 10 février. 2025 participe au débat Alphonse Maindo, professeur en sciences politiques de l'université de Sorbonne Paris 1 et enseignant à l'université de Kisangani. Professeur Maindo, bonsoir.
Bonsoir madame.
Jean Bosco Mouemeri est aussi avec nous dans ce débat. Il est analyste indépendant de la géopolitique des Grands Lacs africains. Il est membre du comité des crises de la société civile congolaise. Jean Bosco Mouemeri, bonsoir.
Bonsoir madame.
Christophe Vogel, vous travaillez sur les dynamiques des conflits en région des Grands Lacs depuis 2008. Vous êtes cofondateur de l'Institut et Bouteli, ancien expert des Nations Unies. Bonsoir Christophe Vogel.
Bonsoir.
À Kisangani dans la province de la Tchopo, vous nous suivez sur la 94.8. Et si vous êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radiokepi.net, sur DSTV canal 867. Vous avez aussi la possibilité de suivre cette émission en direct sur la page Facebook, la chaîne YouTube et le compte X de Radio Okapi. Bienvenue à tous dans votre magazine.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions à tech@radiookapi.net.
Sommet conjoint EAC-SADC. Plusieurs mesures ont été prises par les chefs d'État et des gouvernements durant le sommet conjoint, comme je viens de le dire, EAC-SADC, tenu à Dar es Salaam, en Tanzanie, samedi 8 février dernier. Quelles sont ces mesures prises pour tenter de mettre fin à la guerre qui s'écoule la partie est de la RDC? Askazi Biataero revient sous les grandes lignes des décisions susceptibles d'être réalisées à court et à moyen terme.
En toute urgence, le chef d'État de la SADC et EAC ont lancé un appel à la cessation des hostilités et au cessez-le-feu immédiat. Ils ont demandé le rétablissement de services publics essentiels et de voies d'approvisionnement en denrées alimentaires afin que soit assurée l'aide humanitaire. En termes clairs, il est demandé l'ouverture de routes Goma-Sake-Bukavu, Goma-Kibumba-Rumangabo-Kalingera-Ruchuru-Bunagana et afin Goma-Kiwanja-Rundi-Kanyabayonga jusqu'à Lubero. Autre urgence, c'est aussi la réouverture immédiate de l'aéroport de Goma. Ce sommet conjoint a donc chargé le chef d'état-major de l'EAC et de la SADC de se réunir à court terme, c'est-à-dire dans un délai de 5 jours, pour fournir des directives techniques sur l'instauration des cessez-le-feu et la cessation des hostilités immédiates sans condition. À moyen terme, les chefs d'état-major devront, dans leur mission, élaborer un dispositif de sécurisation de la ville de Goma et des zones environnantes. Ceci dans l'intérêt de faciliter l'acheminement, par exemple, d'une assistance humanitaire et la sécurisation des voies de navigation sur les lacs Kivu entre Goma et Bukavu.
Merci Aska Zigbia pour ce résumé. Professeur Alphonse Maindo, je rappelle que vous êtes professeur en sciences politiques de l'Université de Sorbonne Paris 1 et enseignant à l'Université de Kisangani. Il s'est tenu, comme vous le savez, hein, le 8 février, samedi 8 février, à Dar es Salaam, en Tanzanie, un sommet conjoint et à ses SADC sur les conflits dans la partie est de la RDC. Avant de parler des recommandations de ce sommet, professeur, comment vous analysez ou la tenue de ce sommet conjoint et assez SADC?
Oui, bon, je pense que ces sommets étaient devenus nécessaires puisque on se retrouvait avec une grande agglomération Goma qui a plus de plus d'1,5 million habitants. Donc, avec les déplacés des guerres autour d'un million autour de la ville de Goma, donc tout ce monde-là, du jour au lendemain, se retrouve dans une situation dramatique. Les stocks de dépôts pharmaceutiques, de médicaments, de matériels médicaux qui ont été pillés, la nourriture, tout ça, tout a été pillé. Et donc, il y a des forces, des risques importants d'épidémies et autres, sans compter que il y a beaucoup de gens qui sont de morts, qui sont abandonnés dans la rue, il y a des putréfactions, tout ça. Donc il y avait nécessité de se réunir pour essayer de mettre un terme à ce drame humanitaire qui s'annonce hein, et qui pourrait s'aggraver. Donc il fallait trouver une solution. Je pense que c'est qu'il y a nécessité, mais il y avait eu déjà avant d'autres initiatives. La CAC a fait assez réunis aussi, a pris des mesures qui a été même plus fort que plus forte mesure que les gens de ces formats conjoints, parce qu'à nommer véritablement les pays qui sont en charge, qui sont responsables de ça, en l'occurrence le Rwanda, elle n'a pas parlé de tout invité. Donc, vous voyez, il a cité les troupes rwandaises pour qu'ils se retirent du Congo. Donc, on a là, si vous voulez. Et quand vous regardez les pays qui se sont réunis là-bas, les assises, donc, le parti de la RDC et la SADC, ont des intérêts économiques majeurs. S'il y a une forte déstabilisation de la RDC, le Kenya, par exemple, qui a beaucoup investi ces dernières années en termes de contrôle des banques congolaises, la TMB, la BCBC, par exemple, pour ne citer que cela, s'il y a une forte déstabilisation, tous ces investissements pourraient sombrer. Et donc, il y a intérêt à ce qu'il y ait au minimum un début de stabilisation de la situation. Je pourrais citer aussi des cas d'autres pays comme le Burundi, qui pour qui c'est aussi une question vitale, l'Afrique du Sud et tout ça. Donc il y a des enjeux qui font qu'aujourd'hui, le Rwanda ne pouvait pas, donc on ne pouvait pas laisser le Rwanda continuer à mener cette guerre. Il fallait donc imposer, si vous voulez, une sécurité. C'est ce qu'on a vu même avant la réunion. Le Rwanda a dit à son ministre des Affaires étrangères qu'il allait demander le soutien des pays médias. Donc c'est ce qu'on a vu aussi.
Jean Bosco Mouméri, analyste indépendant de la géopolitique des Grands Lacs africains. Vous êtes membre du comité des crises de la société civile congolaise. Pensez-vous, comme le prof, qu'il y avait nécessité d'organiser ce sommet et à ces SADC?
Oui, en effet, il était nécessaire d'écouter tout le monde, que chacun parle, à que les États s'expriment. C'est vrai, quand on lit les résolutions, on se rend compte que finalement, ce sont les mêmes propos, ce sont les mêmes décisions, et pourtant les acteurs, nous les connaissons tous, l'Ouganda et le Rwanda. Quand ils dialoguent, ils attaquent, quand ils attaquent, ils dialoguent. Donc, ce qui est écrit pour eux n'a jamais été une obligation pour eux de respecter les engagements, les accords des partenaires. Mais le contexte est tout à fait différent. Parce qu'aujourd'hui, comme venait de le dire le prof Maïndo, avec la tenue du sommet de la CAC, où on sent effectivement que d'autres États de la frontière ont pris la mesure de la chose et ont compris. Pour moi, la régionalisation de ce processus de la RDC est en train d'affecter leur État et que leurs intérêts nationaux sont menacés. Nous pensons que tout le monde a compris et effectivement, c'est pourquoi nous aussi, en tant que société civile, nous avions réuni nos collaborateurs, nos collègues des sociétés civiles de la région pour qu'on essaye d'attaquer les problèmes de la Russie. Qu'on arrête ces discussions de mode, mais qu'on regarde où va l'Afrique. Qu'est-ce que le Rwanda et l'Ouganda veulent faire en Afrique? Pourquoi ils veulent jouer ce jeu en Afrique? Alors, quand on regarde tout cela, cette dynamique qui commence à naître aussi bien dans les pays autour de la RDC et que les autres pays qui sont dans la conférence de les pays qui sont dans les RDC, nous sentons de plus en plus qu'il y a une crise en confiance et que l'opinion, hein, l'opinion des gens dans la région commence à comprendre où est-ce que nous sommes en train d'aller. Et effectivement, je me dis, les recommandations qui ont été prises, je pense qu'elles vont commencer à se faire. Par exemple, la recommandation phare.
Alors, on va revenir sur les recommandations, Jean-Mouimeri, vous restez en ligne. Hein. Christophe Vogel, vous êtes docteur, vous travaillez sur les dynamiques des conflits en région des Grands Lacs depuis 2008. Vous êtes cofondateur de l'Institut Ebouteli et ancien expert des Nations Unies. Le sommet a impliqué deux grandes organisations régionales, l'EAC et la SADC. Quel rôle ces deux organisations peuvent-elles jouer, hein, Christophe Vogel, dans la résolution du conflit en RDC, ou jouent-elles dans la résolution des conflits en RDC?
Alors, il s'agit tout d'abord de deux organisations régionales qui ont été fortement impliquées dans le passé, dans la gestion du conflit actuel. Donc, à la fois sur le plan militaire, on a eu pour rappel la mission de l'EAC, qui a été remplacé plus ou moins par la mission de la SADC. Et puis, se trouve dans la suite de plusieurs réunions et semaines que les organisations avaient fait à elles-mêmes, notamment juste quelques jours avant encore pour mes conjoints. Et je pense justement ce parallélisme en termes d'engagement politique et aussi sécuritaire des deux blocs régionaux. Face à une situation qui s'est encore aggravée les dernières semaines, a amené des deux organisations dont certains États sont membres dans les deux, comme la RDC notamment, qui est membre dans la SADC.
On a des soucis avec votre ligne téléphonique, Christophe Vogel. Je ne sais pas, essayer de bouger pour voir si la qualité va s'améliorer, parce qu'on a du mal à vous suivre.
Vous m'entendez en double?
Là, ça va maintenant.
Ça va. Je vais faire un résumé. Alors, en gros, les deux organisations régionales ont été impliquées sur le plan diplomatique autant que sur le plan militaire, notamment avec les différentes forces régionales. Et je pense que c'est au vu de la détérioration de la situation que notamment... on s'est mis d'accord pour essayer justement dans un cadre plus global à travers un sommet conjoint de trouver des lignes concordantes de la région au sens plus large par rapport à la situation.
Professeur Maïndo, parlons de ces recommandations issues de ce sommet conjoint EAC-SADC. On va se pencher ce soir sur les recommandations relatives au cessez-le-feu, à la réouverture de l'aéroport de Goma et des routes d'approvisionnement. Professeur, pensez-vous, ou quelles sont les chances, selon vous, du succès de cet appel à la paix, étant donné la complexité du conflit en cours dans la partie est de la RDC? Les chefs d'État ont lancé un appel à la cessation des hostilités et au cessez-le-feu immédiat. Quelles sont les chances, selon vous, professeur, du succès à cet appel à la paix?
Je pense que les chances, on aurait tendance à dire que les chances sont moindres pour que le cessez-le-feu soit respecté. Mais dans ce cas précis, je suis plutôt optimiste. Pourquoi je suis optimiste? Puisque les belligérants ont quand même beaucoup souffert, tous, toutes les parties au conflit ont beaucoup souffert. Il y a eu beaucoup de morts de part et d'autre. Les forces rwandaises, ont perdu beaucoup d'hommes. Les FRDC, les alliés des FRDC aussi ont perdu des hommes, des Rwandais, les Sud-Africains. Et donc, et tout le monde réalise qu'il y a effectivement, tout le monde a tout à perdre. Je pense que les forces rwandaises se sont rendues compte que la victoire ne sera pas facile. Si on veut aller jusqu'à Kinshasa, ça ne serait pas gagné. Et donc, je crois qu'ils vont se réaliser. Alors, il y a aussi, ce qui m'émet aussi un peu confiance, c'est qu'il y a beaucoup de pression diplomatique et politique qui pèse sur les différentes parties prenantes au conflit, hein, mais aussi la mobilisation populaire. Et le Rwanda tient beaucoup à son image. Or, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il y a une forte médiatisation, notamment pour faire annuler un certain nombre de campagnes, visites Rwanda ou autres, tout ça, pour demander à l'Union européenne de rompre de révisiter son contrat avec le Rwanda. Or, le Rwanda tient beaucoup à son image. Et donc, comme il y a cette mobilisation qui risque d'éroder son image, je crois que le Rwanda va tenir ça. Mais je pense aussi que le Rwanda, pour moi, avait plutôt son objectif principal, c'était de forcer la RDC à finalement accepter de se mettre autour d'une table avec l'AFC et les M23. On considère que c'est un groupe terroriste, donc on ne peut pas dialoguer avec eux.
Ouais. C'est pas la première fois, professeur Maïdo, qu'on appelle à un cessez-le-feu. Alors, je disais, c'est pas la première fois, professeur Maïdo, qu'on appelle à un cessez-le-feu. Il y a eu la pression des États, du Conseil de sécurité, de l'Union européenne, demandant au Rwanda ou au groupe M23 soutenu par le Rwanda de cesser des hostilités, de se retirer de la RDC, mais cela n'a jamais été respecté. Qu'est-ce qui vous fait dire qu'aujourd'hui, parce qu'il y a eu ce sommet et à ces SADC, cela sera respecté? Pendant qu'on parle cessez le feu, l'ennemi continue à se battre, à chercher, à vouloir conquérir certaines d'autres localités.
Bon, vous savez, on a demandé un cessez le feu. À mon avis, le cessez le feu pourrait tenir. Pourquoi le cessez le feu pourrait tenir? C'est ce que je disais tantôt. Il y a des fortes pressions, mais il y a aussi les pertes importantes qui ont été faites, de part et d'autre. Et donc, il faut se refaire les forces, il faut refaire les énergies. Et aussi, quel est l'intérêt à pouvoir... Et aujourd'hui, vous avez vu qu'il y a un début de réveil en termes de risques et de sanctions que le pays, comme le Rwanda, pourrait subir. Et je ne pense pas non plus que des pays qui sont dans l'ERC, comme les Kenyans, vont continuer à soutenir les Rwandais jusqu'à faire tous les dégâts qu'ils sont en train de connaître. Puisque, comme je l'ai dit tantôt, il y a plutôt intérêt à ce qu'il y ait un minimum d'ordre pour continuer ses affaires. Et il a beaucoup investi dans l'économie congolaise. Et donc, on va continuer à pousser. Et donc, pour qu'on ait un certain effet qui tienne. Et du côté de la RDC, on voit que les forces armées ont été un peu affaiblies. Et on a tout le monde amusé sur cela. Et maintenant, on se rend compte que les FRDC, même lorsque le chef donne l'ordre de se réfugier, les hommes de troupes ne suivent pas toujours. Et donc, ils sont prêts à en découvrir avec l'ennemi. Et c'est ça qui va faire réfléchir désormais le Rwanda pour se dire, si je m'entête pour faire la guerre, et donc il y aura davantage de morts, ce ne sera pas simplement des réductions comme on a l'habitude de vivre dans le passé, mais cette fois-ci, les hommes de troupes désobéissent à leur hiérarchie pour continuer à se battre, à faire des dégâts dans le monde. Et donc, je crois que c'est un élément à prendre en compte par rapport à ça. Et Goma, c'est tout près du Rwanda. Maintenant, si vous voulez aller en profondeur, il faut aussi beaucoup. Il faut également beaucoup de matériel, une forte logistique. Et ça, ça a un coût important. Est-ce que le Rwanda a les capacités et les ressources nécessaires pour faire cela? Donc, on a besoin au moins du temps pour former de nouvelles troupes, pour contrôler, pour continuer à sécuriser les espaces qu'on aura conquis, mais aussi pour continuer à faire la guerre, de mobiliser les ressources. Donc, au moins pour ces raisons-là, on va tenir pendant un moment. Et donc, pendant ce temps, il y aura aussi des changements dans le contexte et tout ça, et qui vont faire en sorte que... Moi, je suis en train de voir, je ne raconte pas comme Lusaka, l'accord de Lusaka, qui a permis déstabiliser les lignes de front jusqu'à ce qu'il y ait un dialogue entre Congolais en 2001 et ça a permis de refaire la paix, de réunifier le pays.
Jean Bosco Moïméry, vous êtes à la liste indépendant. Lors du sommet conjoint EAC-SADC, plusieurs mesures ont été adoptées. Qu'est-ce que vous pensez de ces décisions, en particulier l'appel à la cessation immédiate des hostilités et le cessez-le-feu?
Oui, ce qui est vrai que les deux sommets, c'est-à-dire le sommet 17, du PAC et le sommet du Lev d'Arsalam, après ces deux sommets, on sent carrément que les Rwanda et l'Ouganda sont obligés par les autres de revoir leur calcul. C'est vrai, le Rwanda est en train de perdre, c'est-à-dire les députés dont on était actué dans la profondeur à l'RDC, le plus possible aujourd'hui, parce que l'RDC, quoi qu'il soit désorganisé, ils arrivent quand même à faire beaucoup de pertes dans les rangs de militaires rwandais. Il y a beaucoup de deuils au Rwanda. Ça, c'est quand même quelque chose qui a changé. Et je crois que le fond de l'État a réussi à faire quelque chose du côté de l'équipement de l'RDC. Il reste quelque chose à consommer seulement du côté militaire. Et donc, pour ça seulement, le Rwanda et l'Ouganda seront dans l'obligation de négocier. C'est vrai, vous avez besoin de mettre la RDC face à une situation
Votre ligne est pas... Votre ligne n'est pas bonne.
Moi, je suis en train d'avoir des questions dans
votre,
la ligne.
Votre ligne n'est pas bonne, Jean.
Oui,
votre ligne n'est pas claire, hein, Jean Bosco Moïméry. Est-ce que vous avez activé l'option main libre?
Oh oui.
Parce, pourquoi on a du mal à vous suivre?
Alors, c'est vrai.
Oui, allez-y. Ah, ça va, allez-y.
Ah, ok. Donc, je disais que les Rwanda et l'Ouganda avaient besoin d'un Congo affaibli. Et pour négocier et obtenir justement que le chef de l'État puisse accepter de négocier avec les M23. C'est-à-dire, quelque part, ils ont réussi à obtenir ce qu'ils cherchaient. Alors, il est possible qu'avec ça, ils puissent effectivement arrêter les mouvements d'affrontement pour ne plus avancer du côté des autres villes. Là, c'est possible. Et puis, la réouverture de route, c'est à la fois bon pour l'humanitaire, tel qu'on le veut, mais dans l'entretemps, eux aussi, ils ont besoin d'accès pour faire évacuer les vieux pillés et les minéraux qu'ils sont en train de chercher, qu'ils vont partout, les M23 et déjà. Donc, là, ça c'est clair, avec ce qu'ils ont obtenu dans les négociations, ils peuvent d'abord se satisfaire provisoirement. Et je crois que le cessez-le-feu sera respecté par tout le monde. Il faudra maintenant que, du côté de la RDC, on trouve comment rétablir l'intégrité territoriale de la RDC et sa souveraineté sur l'ensemble de ses ressources naturelles. Ça, ce sera un autre débat. Mais le plus dans tout ça, c'est les coûts politiques et les coûts humanitaires de ce qui vient de se passer à Goma, et de ce qui se passe après Goma sur la ligne vers le sud Kivu. Ça, je crois que quand même l'opinion publique internationale est en train d'être révoltée par ce qui s'est passé et la manière dont rien n'est fait pour protéger les populations civiles sur la ligne de progression des troupes du M23 et les Rwandais qui les accompagnent. Donc, moi je crois que avec ça, il y a lieu d'espérer que nous allons obtenir quelques répits et une application plus ou moins chuchotante et une application chuchotante des différentes recommandations qu'il y a sur les papiers. Mais bien sûr, du côté congolais, il faudra être prudent parce que le Rwanda n'a jamais rien respecté et c'est seulement par rapport à la... Parce que pour eux, c'est la posture militariste c'est gagné par les armes. Et donc, si on ne monte pas l'armée, hein, une armée républicaine réelle, en tout cas, c'est parti pour la gloire.
Merci. Christophe Vogel, quelles sont les chances que ces appels à un cessez-le-feu immédiat soient respectés sur les terrains, selon vous?
Alors, je pense qu'il faut déjà différencier entre des différents types de cessez-le-feu. Il y a évidemment la question d'un cessez-le-feu plus général qui est sur la table. Il y a eu nombreuses tentatives d'arriver à une cessation des hostilités qui oppose la RDC au M23 avec les alliés respectifs. Il y a aussi la question plus pratique et plus spécifique d'un cessez-le-feu humanitaire dans Goma et autour de Goma. Et je pense que sur ce point-là, il y a peut-être une chance plus concrète d'un respect mutuel, aussi dans l'optique que, et je pense qu'il faut le rappeler, que nous avons eu l'annonce de 3 000 morts dans les combats dans Goma dans les dernières semaines, qui est un chiffre qui était avancé par les Nations Unies et des acteurs aussi gouvernementaux. Ce chiffre se constitue de environ 800 personnes qui ont été recensées dans les morgues, dans les hôpitaux de la ville, mais le reste, que ça soit 2000 et quelques, c'est toujours très difficile d'arriver à des chiffres exacts. Ce sont des morts qui auraient eu dans la ville pendant les combats, qui ne sont pas dans les morgues et dont, selon les dernières informations de la société civile, mais aussi de la Croix-Rouge, il n'y a que environ 500 qui ont pu être enterrés. Donc, ceci dit, déjà, il y a une urgence immédiate de faire taire les armes, au moins dans la ville et autour, pour non seulement s'occuper de cela et aussi faire un travail de prévention épidémique, par exemple, mais surtout aussi de faire des efforts à ce que les populations qui sont dans la ville reçoivent les soins et les assistances nécessaires. Et c'est dans cette optique-là qu'un cessez-le-feu qui vise particulièrement à amener un soutien très nécessaire aux populations de Goma qui soit respecté, y inclus par les modalités logistiques qui sont requises. Et là, on parle évidemment d'un accès humanitaire pour les acteurs à la fois nationaux autant qu'internationaux. Et évidemment, vu aussi les actes de pillage que notamment le programme alimentaire mondial, mais aussi l'OMS ont subi, un approvisionnement aérien aussi qui semble assez nécessaire pour permettre à tous les acteurs de terrain de justement subvenir aux besoins. Et en conclusion, il est... vu les tensions politiques et les désagréments qui se reflètent d'ailleurs aussi au niveau régional pour l'instant, il est peut-être plus réaliste d'atteindre au minimum ce cessez-le-feu humanitaire pour Goma et ses environs, lorsqu'on a vu que la poursuite au moins sporadique des combats au sud Kivu, on a mentionné Niabibwe, on a mentionné Calais, rend peut-être la possibilité d'un vrai cessez-le-feu durable qui inclut une cessation totale des hostilités, pour l'instant un peu plus difficile à obtenir.
Avant de passer aux autres recommandations, notamment sur la réouverture de l'aéroport de Goma, on va écouter d'abord ces auditeurs qui sont très nombreux à nous suivre à travers la RDC, qui veulent aussi donner leur avis sur le thème de ce soir. On va aller à Kolwezi, dans la province du Malaba, pour écouter cet auditeur.
Je m'appelle Dieudonné Bangé fils, hein. J'interviens depuis la ville de Kolwezi dans la province du Lualaba. Merci de nous avoir encore associés à ce débat patriotique. Sincèrement, moi personnellement, j'avoue éprouver en tout cas d'énormes difficultés pour digérer les faits que le président de la République Félix Tshisekedi continue toujours de se baigner dans cette distraction du cessez-le-feu souvent fatale pour nous Congolais, d'autant plus que le parrain du mouvement M23, Paul Kagame, bien entendu, est connu de tous, mais fort est de constater avec amertume que c'est le même parrain, après ses assises, a semblé faire croire à l'opinion internationale que cette guerre est ethnique et que les Rwandais, son pays, n'y est pour rien. Une attitude qui atteste sans nul doute, noir sur blanc, que le monsieur n'est pas concerné et veut nous faire voir que le conflit est national. Pourtant, la présence de ses troupes, largement documentée par les organismes internationaux, ne fait l'ombre d'aucun doute. En tout cas, de ces faits, moi je pense que ces recommandations ne sont que des chapelets de bonnes intentions que nous avons toujours l'habitude d'entendre. Et j'estime de ma part que si seulement cette fois-ci, le président de la République n'opte pas pour une option militaire, ces gens continueront toujours de nous mettre à genoux comme des petits enfants et nous n'aurons toujours nos yeux pour pleurer.
Professeur Alphonse Maïldo, brève réaction.
Oui, bon, écoutez, je pense que je pense pas que le président de la République soit en train d'attendre que le secteur de respecter le secteur de fait. Je crois que il est bien conscient de la faiblesse de notre système de défense et de sécurité. Et donc, quand il vient faire le feu comme ça, il ne peut que suivre ça. Souvenez-vous, c'est bien d'avoir toujours à l'esprit l'histoire. Il y a quelques années, et vous vous souvenez de la bataille des Poitiers. À l'époque, c'était Laurent Désiré Kabila. Lorsqu'il avait décidé d'enclencher une opération contre les troupes rwandaises justement dans cette région des Poitiers, et il avait connu une défaite fulgurante, et ses partenaires l'avaient désavoué, notamment les Zimbabwéens et tout, donc l'était vraiment mal vu. Et donc, aujourd'hui, la force est de reconnaître que nous n'avons pas les capacités militaires pour violer le cessez-le-feu, nous sommes en train d'essayer de respecter. Mais ce que nous devons faire, c'est que nous devons cesser maintenant de nous plaindre du Rwanda puissant. Parce que nous avons tous les attributs pour être une puissance. Regardez, aujourd'hui on se plaint de 4000 à 5000, parfois on voit jusqu'à 10 000 hommes rwandais qui sont sur le territoire congolais. Or, les effectifs des forces armées de la RDC, c'est combien d'hommes? C'est plus de 120 000 hommes. Et donc, comment on peut se plaindre de 4 000 hommes? Donc, ça dit, là, il y a un problème, soit un problème de leadership, de management des forces armées, un problème d'équipement des forces armées, un problème de maintenance de nos outils et de motivation de nos militaires et de leur prise en charge. C'est peut-être là qu'il y a les problèmes. Mais donc, je crois qu'il faut qu'on ait le temps de comprendre la conscience de ce qui nous est arrivé à Goma pour nous ressaisir et rétablir un outil de défense. Mais je ne pense pas que les gendarmes, vu que vous n'êtes pas informés, il y a effectivement des renforts qui ont été envoyés, y compris des alliés de la RDC, pour sécuriser la zone, pour parer à toute éventualité, que ce soit des Sud-Africains, des Burundais, mais aussi des FRDC. Ils ont déployé de nouvelles troupes avec de nouveaux matériels pour s'assurer que les M23 avec les Rwandais ne vont pas continuer à gagner du terrain. Donc je crois qu'il y a des efforts. Mais je suis d'accord avec lui sur la tête, c'est que nous ne devons pas externaliser la sécurité. La sécurité nationale doit être l'affaire du Congo. L'externalisation de la sécurité n'a jamais payé nulle part.
Alors, le sommet a demandé, professeur, le sommet a aussi recommandé la réouverture de l'aéroport de Goma pour permettre aux humanitaires de pouvoir venir en aide, acheminer les médicaments, la nourriture aux nombreux déplacés qui sont à Goma actuellement. Alors, pensez-vous que cette demande sera acceptée par ceux qui sont qui tiennent la ville de Goma actuellement?
Alors, je crois que il y aura beaucoup de tractations qui vont se faire pour obtenir cette réouverture de l'aéroport, parce que eux-mêmes, les Rwandais, les M23, l'AFC qui occupent Goma, ils ont besoin d'être connectés au reste du monde. Donc, le bon sens, je voudrais aussi que pour eux-mêmes, qu'ils montrent aussi l'image, ce qu'ils essaient de vendre, pour dire qu'eux, ils sont différents des mauvais gestionnaires qui sont au Congo, ou des mauvais gestionnaires qui sont à Kinshasa, qu'ils montrent l'image, qu'ils travaillent effectivement pour la population congolaise. Et donc, en ce moment-là, si, puisqu'ils seront pris dans leur propre piège, ils vont être obligés de faire son geste humanitaire pour justement vendre ça en disant voilà ce que nous faisons. Et c'est ce que j'ai vu d'ailleurs, ils ont fait des images de propagande où on a vu un certain officier, un chef de l'AC, aller dans les hôpitaux pour aller consoler les militaires congolais, donc des FARDC qui sont hospitalisés là-bas, ce qui est une ironie, mais c'est définitif pratiquement de voir ça. Voyez-vous, donc, on voit bien qu'ils sont dans le besoin de communication pour montrer, pour convaincre la population congolaise qui est majoritairement hostile à leur intervention, mais aussi ils sont sous la pression de la communauté internationale. Donc je crois que pour toutes ces raisons, ils vont être obligés à un moment donné d'ouvrir l'aéroport de Goma et par nécessité aussi, hein, parce qu'eux-mêmes aussi ont besoin de vivre. Ils n'ont pas besoin de rester dans une espèce d'enclave isolée, coupée de tout. Ils ont passé assez longtemps dans la forêt, ils vont profiter aussi de la vie.
On va se rendre à Kisangani cette fois-ci pour écouter cet autre auditeur qui appelle.
Je m'appelle Jean Kibefunga Malumalu depuis Kisangani, province de la Tchopo. Je tiens tout d'abord à saluer l'engagement remarquable des chefs d'État et des gouvernements de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique australe lors de ces sommets conjoints EAC, SADC à Dar es Salaam. Leur appel urgent à la cessation des hostilités et au cessez-le-feu immédiat, ainsi que leur engagement pour la réouverture des voies d'approvisionnement humanitaire, montrent une volonté sincère de restaurer la paix. Cependant, il est crucial de souligner que le véritable conflit réside dans une agression indirecte mais soutenue, qui est le résultat d'intérêts géopolitiques et économiques des puissances occidentales.
Monsieur Mouméri, juste un petit commentaire. Hein. Cet auditeur pense que l'appel de ces chefs d'État montre une volonté sincère de restaurer la paix et la sécurité dans la région.
Oui, bon, il a raison. Mais il faudrait dire que la réouverture de l'aéroport et l'ouverture de circulation sur toutes les voies d'acheminement des denrées alimentaires devrait être dans le même agenda de la restauration de l'autorité de l'État. C'est-à-dire, Kinshasa devrait progressivement négocier avec tous ses partenaires, parce que quand on lit les différentes dynamiques, c'est de vouloir à ce que la réouverture des voies humanitaires correspondent aussi avec la sécurisation des populations civiles dans la région, mais aussi pendant, j'imagine, ces temps qu'ils sont en train de négocier toute autre chose. Donc, ouvrir l'aéroport de Goma devrait être ressenti comme la circulation dans le Congo et bien sûr entre le Nord Kivu et le reste du monde, mais aussi que ce soit aussi de la dynamique pour ramener l'autorité de l'État qui doit être l'autorité légitime dans le pays. Donc il n'y a pas à ce moment à avoir à Goma un gouverneur du M23 en concurrence avec un autre gouverneur qui est à Beni pendant longtemps. Qu'est-ce que c'est cette situation-là dans l'air de durer. Donc si ce n'est pas à ce type d'agenda là-bas, ce sera un problème réel de paix et de sécurité des populations, hein, parce qu'on ne sait pas de quelle manière cela va s'impacter dans les relations entre les populations civiles qui circulent des zones occupées par l'M23 vers les zones gouvernées par l'État congolais, ainsi de suite.
Christophe Vogel, on va prendre aussi pour vous cet auditeur, la réaction de cet auditeur qui nous appelle depuis la ville de Bukavu, au sud Kivu.
Maître Ulimwengu Kitungano Joseph, depuis la ville de Bukavu. Ces recommandations sont à encourager même si leur concrétisation ne sera pas facile. Comment peut-on demander la réouverture de l'aéroport pendant que les rebelles occupent encore la ville? Le cessez-le-feu devrait être fait, suivi par le retrait total des rebelles, puis alors la réouverture de l'aéroport et les routes. Autre chose, ces deux communautés régionales, SADC et EAC, je n'ai pas apprécié leur manière de procéder, nulle part où elles ont reconnu les Rwandais comme coupables dans tous les actes qui se commettent à l'est de la République démocratique du Congo, malgré les preuves de plusieurs rapports des experts, des ONG et les vidéos. Moi, je m'attendais à ce que ces communautés grondent d'abord les Rwandais avant de procéder à toute autre chose. Et
Christophe Vogel.
Alors, je salue Maître Kitungano. Pour être très bref, je pense en termes d'analyse politique, on peut certainement voir le communiqué issu du sommet conjoint aussi comme une réaction certainement timide, une réaction timide qui hésite de clairement s'attaquer à certains États ou certains parties prenantes, qui est en effet rien d'autre qu'un résultat de la négociation entre non seulement les États membres d'un bloc régional, mais de deux blocs régionaux qui ont tous aussi des intérêts et des positionnements légèrement différents. Et c'est dans ce sens-là, comme pour revenir aussi à la question humanitaire, que justement un cessez-le-feu humanitaire précis est certainement dans le court terme peut-être plus réaliste qu'un cessez-le-feu plus large qui concerne le conflit dans sa globalité et les hostilités, non seulement à Goma et dans les alentours, mais aussi dans d'autres zones, comme notamment vers le sud Kivu.
Alors, Christophe Vogel, cet auditeur a parlé de la réouverture de l'aéroport de Goma alors que les rebelles du M23 sont encore dans la ville. Il estime qu'il faudrait qu'avant la réouverture, que ces rebelles puissent quitter Goma.
Alors, dans l'idéal, comme nous trouvons évidemment sur le territoire de la RDC, il serait normal que justement une réouverture se passe par les autorités congolaises. Maintenant, dans la situation actuelle où le contrôle dans toute la région reste assez contesté, une réouverture immédiate va certainement dépendre d'avoir un consensus minimum entre les différents belligérants, afin d'obtenir un compromis qui permet notamment à des opérations sécurisées qui ne vont pas être affectées par des éventuelles hostilités n'importe de quel côté.
Alors, professeur Maino, nous sommes à la fin de l'émission. Le sommet a demandé aux chefs des forces de défense des deux organisations, c'est-à-dire EAC et SADC, de se réunir dans les 5 jours qui vont se réunir très très bientôt et fournir des directives techniques, notamment sur la mise en œuvre du cessez-le-feu immédiat et inconditionnel, la réouverture de l'aéroport de Goma. Ça semble ne pas être un exercice très facile du moment où le M23 qui disent ne pas être représenté par le Rwanda dans ces différentes rencontres n'est pas associé. Professeur Maindo.
Oui, alors mais je crois que il y a deux choses. Oui, merci madame. Je crois qu'il y a deux choses qu'il faut séparer là-bas. Il y a d'abord le fait d'ouvrir l'aéroport pour qu'il y ait du trafic, notamment humanitaire, pour qu'on puisse approvisionner la ville en matériel médicaux, en médicaments, en nourriture, qu'on puisse évacuer également les malades et les blessés, tout ça. Ça, c'est une chose. Et ça peut se faire quelle que soit l'autorité des faits qui occupe la ville. Et donc, ce ne serait pas la première fois, ce pays a déjà connu ça 20 fois. Donc, et dans d'autres contextes aussi, on connaît ça. Donc, ça, c'est l'autre aspect qui est donc de l'autorité de ceux qui est là-bas. Ça signifie que les autorisations de vol, d'atterrissage et tout ça seront données par l'autorité de partout, qui se trouve être la force occupante ou les renseignements. Maintenant, après, pour que les M23, avec les soutiens rwandais, puissent quitter Goma, qu'ils ont conquis militairement. Il y a sans doute des négociations à faire, il y a sans doute des concessions à faire pour qu'ils obtiennent qu'est-ce qu'ils vont obtenir s'ils se retirent. Et donc ce sont ces choses-là, à mon avis, et qui peuvent prendre un peu plus de temps. Mais en ce qui concerne la réouverture d'aéroport au trafic pour permettre les vols humanitaires et aussi pour les vols des Nations Unies pour amener le matériel pour l'amélioration du Monusco, ça peut se faire, quelle que soit l'autorité qui occupe la ville.
Monsieur Mouméry, votre conclusion, parce que nous sommes à la fin de l'émission, quelles pourraient être, selon vous, les difficultés que ces chefs des forces de défense pourraient rencontrer dans la mise en œuvre des recommandations, des mesures prises à l'issue de ce sommet?
Bon, la première difficulté, c'est le fait déjà pour les M23 et AFC de dire que ces accords ne les engagent pas. Et donc, à ce moment, les Rwandais avancent à deux têtes et ils se retirent quand ils négocient avec les chefs d'État. Il est Rwanda et les autres, ils disent ça. Là, c'est un premier blocage. Mais un deuxième blocage, ce serait au cas où ils décident carrément de poursuivre leur guerre, parce que l'objectif pour eux, c'est de diriger le pays. Bon, à ce moment, ça ferait un grand débat pour la RDC si la RDC ne prend pas toutes les dispositions militaires pour imposer la discipline. Et ça, c'est dans son état actuel, il doit être accompagné par des États comme l'Afrique du Sud, l'État comme l'Angola et d'autres qui pourraient s'y joindre pour soutenir vraiment la voix de la RDC a imposé sa souveraineté.
Merci, Monsieur Mouméry. Christophe Vogel, hein, ça sera vraiment une réponse courte. Hein. Le sommet a été un signal fort de solidarité régionale selon certains observateurs, mais ils estiment que ces mesures... des mesures plus concrètes doivent être prises. Quel mécanisme de pression ou d'incitation pourrait être utilisé pour que ces décisions prises soient effectivement mises en œuvre sur le terrain?
Alors, en tout court, je pense qu'il faut d'abord réfléchir sur comment ces mesures ou ces demandes issues du sommet vont être matérialisés. Je veux bien diriger l'attention des auditeurs aussi sur la question de la fusion des processus de Nairobi et Luanda, donc un processus régional interétatique avec un processus beaucoup plus domestique congolais à Nairobi. Et cela, en théorie, mettrait ensemble non seulement les États impliqués, mais aussi tous les autres parties prenantes non étatiques. Mais par contre, il n'a pas encore été défini dans quel cadre une telle fusion des deux processus de paix pourrait être faite. Et je pense que beaucoup dépendra de la manière dont cela peut éventuellement être mis en œuvre.
Merci Christophe Vogel, Dialogue en Congolais. C'est fini pour ce soir. Merci à toute l'équipe qui m'a aidé à préparer et réaliser ce magazine. Guy Maté, Freddy Bikumbi, Bertin Kassiama, derrière les caméras, Donaton Folani, Clément Chimanga et Hervé Boka, Mimi Kindete à la mise en onde, présentation et coordination, Kéline Couté, restez branchés sur la fréquence de la paix.